VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 22 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le chef de la junte, Assimi Goïta, a réitéré son soutien aux forces internationales dans le pays. Au Cameroun, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau des centaines de manifestants à Douala. Ouverture de la 75e Assemblée générale de l'ONU par un discours d'Antonio Guterres soulignant l'importance du multiralisme face au coronavirus. L'OMS a enregistré 2 millions de nouveaux cas la semaine dernière dans le monde, un record, tandis que le nombre de décès a diminué. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le Mali a célébré ses 60 ans d'indépendance ce mardi avec un défilé militaire. Les activités ont été présidées par le chef de la junte, Assimi Goïta, qui a été désigné vice-président de la transition lundi. Le point avec Kassim Traoré à Bamako.
Placée sous le signe d'un nouveau départ, la célébration des 60 ans du Mali s'est passée dans la plus grande sobriété. Un dépôt de gerbes de fleurs par le président du Comité national pour le salut du peuple, puis une prise d'armes sous forme de défilé au génie militaire de Bamako ont été les temps forts de cette célébration des 60 ans du Mali indépendant. Colonel Assimi Goïta, président du CNSP.
Le développement et le salut de notre pays passent impérativement par un changement profond de notre manière d'agir, avec nos méthodes habituelles de gestion et un changement de mentalité. Sans sacrifice, le changement tant souhaité et escompté ne sera qu'un vieux pied, un vain mot.
Le défilé militaire de ce matin a impressionné certains jeunes.
C'est une immense joie pour moi d'y assister. Vraiment, et quand on imagine les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, on a été confrontés à beaucoup de situations. Mais vu l'organisation aussi, et les mouvements, on se rend compte que le Seigneur accorde la paix et la stabilité dans notre patrie.
Dans la foulée de la célébration des 60 ans, le Mali prépare aussi l'investiture du président de la transition prévue ce vendredi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau des centaines de manifestants à Douala, rassemblés à l'appel de l'opposition. Plusieurs partis, dont celui de Maurice Kamto, avaient appelé à des marches pacifiques pour un cessez-le-feu dans les zones anglophones et des négociations, ainsi qu'une réforme électorale. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Les gardes-côtes algériens ont repêché 10 corps et intercepté près de 500 migrants à bord d'embarcations clandestines entre les 15 et 19 septembre, selon le ministère de la Défense. Ces migrants ont été arraisonnés au cours de 42 opérations distinctes. Selon l'agence européenne Frontex, plus de 6000 Algériens ont voyagé clandestinement par la mer depuis janvier. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, jugé pour le coup d'État de 1989, a de nouveau été reporté au 6 octobre, a annoncé le président du tribunal. L'audience de ce mardi était la cinquième depuis le 21 juillet. Les attaques de groupes armés djihadistes dans le nord du Mozambique aggravent la menace de la faim, s'alarme le Programme alimentaire mondial. L'agence onusienne se dit préoccupée par l'intensification du conflit et la détérioration dans la province de Cabo Delgado où 300 000 personnes ont fui leur village abandonnant leur récolte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture de la 75e Assemblée générale de l'ONU avec un discours du secrétaire général d'Antonio Guterres qui a rappelé l'importance du multilatéralisme face au coronavirus. Il a ensuite laissé place au discours des chefs d'État préenregistré en raison de la pandémie. Le point avec Dilidico à New York.
La première journée du débat général de la 75e édition de l'Assemblée générale de l'ONU a débuté avec un discours introductif du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a rappelé l'importance du multilatéralisme face à un ennemi commun, le nouveau coronavirus. Après avoir dressé un bilan de l'état du monde, il a laissé place au discours officiel des chefs d'État. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les Nations Unies ont dû s'adapter au nouveau format de visioconférence. Jair Bolsonaro, président du Brésil, a été le premier chef d'État à délivrer son discours par message vidéo. Dans son allocution, M. Bolsonaro, dont la réponse face à la pandémie de Covid-19 a été très critiquée, a abordé la crise sanitaire qui a gravement affecté le Brésil, troisième pays le plus touché après les États-Unis et l'Inde. Mais le discours le plus attendu de la journée était celui du président américain Donald Trump. Il avait initialement annoncé qu'il souhaitait venir délivrer son message en personne à la tribune de l'ONU, mais s'est finalement exprimé virtuellement. Il a commencé son adresse en listant les succès des États-Unis face au coronavirus et pointé du doigt, je cite, le virus chinois et la Chine qu'il a blâmé pour ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme à temps.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world.
Donald Trump a également souligné les progrès faits par les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et les négociations des accords de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Dans son discours concis, le président Trump a réaffirmé sa position en faveur de l'Amérique d'abord et dit aux autres leaders qu'il est tout à fait acceptable de mettre d'abord en avant les intérêts de son pays.
As president, I have rejected the failed approaches of the past, and I am proudly putting America first.
Un message qui contraste avec l'action commune et concertée prônée par M. Guterres. Le programme chargé de la première journée inclut les discours des présidents des États-Unis, de la Chine, la Russie et la France, quatre membres permanents du Conseil de sécurité. L'Iran aussi doit faire son intervention vidéo aujourd'hui. De même que l'Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus sur le continent, mais aussi l'Égypte, le Rwanda, l'Angola, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Demain, mercredi, le programme prévoit le Ghana, le Mozambique, l'Algérie, le Kenya, la Zambie, le Togo et le Libéria. Dilidico, VOA, New York.
Donald Trump a indiqué qu'il annoncerait samedi depuis la Maison-Blanche le nom d'une nouvelle juge à la Cour suprême pour succéder à Ruth Bader Ginsburg décédée vendredi. La veille, il a indiqué qu'il envisageait 5 magistrats présélectionnés, essentiellement des femmes. De gigantesques incendies continuent de ravager la côte ouest des États-Unis. Plus de 19 000 pompiers combattent 27 incendies majeurs en Californie. Les feux ont dévasté jusqu'ici plus de 20 000 km² et tué plus de 30 personnes dans les États de la côte pacifique américaine. Record hebdomadaire de contamination au coronavirus dans le monde. En Europe, l'Angleterre a adopté de nouvelles restrictions. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Près de 2 millions de nouveaux cas de coronavirus, soit le plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine depuis le début de l'épidémie, a annoncé aujourd'hui l'OMS. Le nombre de décès a baissé de 10% à 37 700, à l'exception de l'Afrique. Tous les continents ont signalé une augmentation des cas et l'Europe a connu la plus forte augmentation des décès. Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles restrictions. Les pubs et restaurants fermeront dès 22h et le télétravail sera à nouveau encouragé. L'Espagne a, elle, choisi des restrictions beaucoup plus sévères à Madrid avec un confinement volontaire. Le continent américain rassemble plus de 38% de tous les nouveaux cas, mais les décès y ont baissé de 22%. À bientôt 6 semaines de l'élection présidentielle, les États-Unis enregistrent chaque jour un millier de décès.
La diplomatie palestinienne a annoncé se retirer de la présidence tournante de la Ligue arabe après que l'organisation a rejeté sa demande de condamnation de la normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Lors d'une réunion au Caire le 9 septembre, les pays membres ne sont pas parvenus à un consensus sur ce projet de résolution proposé par les Palestiniens. Une puissante explosion a secoué un bâtiment du Hezbollah près d'un village du sud du Liban. Des habitants d'Ain Kana ont précisé que des membres du mouvement chiite armé ont bouclé le secteur. La Russie va développer sa coopération militaire avec l'Iran après l'expiration le 18 octobre de l'embargo international, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré mi-septembre que les États-Unis empêcheraient Téhéran d'acquérir des armes russes et chinoises, et Washington affirme que l'embargo est prolongé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Cameroun est devenu l'un des 4 fournisseurs africains de gaz naturel à la Turquie grâce au Ili Epiceyo, l'unité flottante de liquéfaction du gaz naturel mise en service dans la ville de Kribi en 2018. Selon la Société nationale des hydrocarbures, l'État camerounais a exporté 157 924,66 tonnes de gaz naturel liquéfié fin mai 2020. À en croire Investir au Cameroun, ce gaz a été livré en Turquie, en Inde, en Corée du Sud, au Koweït et à la filiale singapourienne du groupe russe Gazprom. Le Maroc s'attend à une hausse de 10% des exportations des agrumes en 2020-2021 à cause d'une offre plus faible de certains concurrents et une demande plus soutenue sur les marchés internationaux. L'agroalimentaire est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie marocaine. Les recettes d'exportation sont passées de 1,9 milliard de dollars en 2010 à près de 4,3 milliards de dollars en 2019. Le Maroc est l'un des principaux exportateurs africains de produits agroalimentaires. Pour terminer, les cours du pétrole ont baissé hier devant le retour sur le marché des exportations libyennes. Le baril américain de West Texas Intermediate pour octobre a perdu 5,45% par rapport à vendredi. Celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a baissé à Londres de 4,50%.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo a publié une liste de 28 joueurs sélectionnés pour son stage prévu le mois prochain à Rabat au Maroc. Cet exercice sera ponctué de 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso le 9 octobre et le Maroc le 13. Le sélectionneur des Léopards, Christian Zengi Biembe, a décidé de faire 102 de ses attaquants, Cédric Bakambu du Beijing Guan et Jackson Muleika, qui a nouvellement quitté le tout-puissant Mazembe pour le Standard de Liège. Difficile pour Bakambu de quitter la Chine avec les contraintes liées au coronavirus. Muleika, lui, vient de rejoindre le Standard de Liège où il a récemment signé. Yannick Bolassier, Parfait Mandanda, Merveille Bopé et Paul-José Mpoku sont aussi absents de la liste. Pour le reste, 6 nouveaux rejoignent le groupe. Gédéon Kaloulou, latéral droit de l'AC Ajaccio, Johan Wissa, ailier de Lorient, l'attaquant Nick Kabamba, Peter Mutumosi, Joël Beya du tout-puissant Mazembe et Neil Depau. Quelques retours à signaler comme ceux de Nikens Kebano de Fulan et Christian Louyindama. Les Super Eagles du Nigeria, eux, feront leur stage en Autriche avec 2 matchs amicaux en vue contre la Côte d'Ivoire le 9 octobre et la Tunisie le 13. Le sélectionneur Guénot Rohr a retenu une liste de 25 joueurs. 2 jeunes marquent cette liste, Zaïdou Sanoussi, latéral gauche de 23 ans recruté par le FC Porto, et Chidera Ejuke, ailier de 22 ans, auteur de 9 buts la saison dernière et qui rejoint le CSKA Moscou. Samson Tidjani, cadre des sélections de jeunes, Franck Onyeka et Mathieu Yakubu effectuent leur baptême de Fécheles A. Les têtes d'affiche comme Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi ou Moses Simon sont présentes. Marseille dit disposer d'images sur lesquelles Neymar proférerait des propos injurieux à l'encontre du japonais Hiroki Sakai lors du polémique match entre le Paris Saint-Germain et l'OM mi-septembre. Le Brésilien a assuré avoir été la cible de propos racistes de la part du défenseur espagnol de Marseille, Alvaro González, lors du houleux classico pollué par 5 expulsions. L'OM dispose d'images sur lesquelles Neymar injurierait Sakai, a assuré une source proche du club marseillais, confirmant des informations de la radio espagnole Cadena Copé. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a ouvert une instruction. Et pour finir, 800 supporters du Bayern Munich ont rendu leur ticket pour la Supercoupe de l'UEFA prévue ce jeudi contre Séville à Budapest, inquiets des risques de contamination au Covid-19. Seuls 1300 d'entre eux sont partants pour le voyage. Côté sévillan, environ 500 personnes ont acheté leur place selon l'UEFA, qui avait mis au départ 3000 places à disposition de chacun des deux clubs. L'instance européenne veut faire de cette super coupe un premier test pour un retour du public sur les compétitions européennes après la tenue à huis clos de la Ligue des Champions en août au Portugal.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, le choix de Bandao comme président de la transition est bien accueilli par certains Maliens. D'autres remettent en question cette décision, comme le M5-RFP qui conteste la manière dont il a été désigné, disant que les militaires l'ont imposé sans débat au niveau du comité. Cet ancien ministre de la Défense et militaire à la retraite sera investi vendredi. Kassim Traoré a recueilli des réactions à Bamako.
Après la désignation du président et du vice-président de la transition, c'est le président du Comité national pour le salut du peuple qui a fait l'annonce sur la télévision nationale, colonel Assimi Goïta.
C'est dans ce cadre qu'un collège a été mis en place. Le dit collège est composé de 7 membres du CNSP, 2 représentants du M5-RFP, un représentant du Conseil national de la société civile, un représentant du Conseil national des jeunes, un représentant des associations et organisations féminines, un représentant de la Fédération des personnes handicapées, un représentant des organisations syndicales, un représentant des mouvements signataires, un représentant des légitimités traditionnelles et un représentant des Maliens de l'extérieur. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta.
Contrairement à cette annonce faite par le colonel Assimi Goïta, le M5-RFP dit que ces deux représentants n'ont pas participé aux travaux du collège. Shogel Kokala Maïga, membre du M5-RFP.
Que notre autorité morale, Mahmoud Diko, a été invité par le CNSP comme personne ressource au collège. Il nous a dit qu'à son arrivée, il a constaté qu'au lieu d'un collège qui délibérait, c'est un communiqué que le président du CNSP est venu lire. Il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucun document, il n'y a eu aucun échange. Et il a dit, séance tenante, que ce qui vient d'être lu le surprend parce que le M5-RFP n'est pas là. Le représentant de la société civile a dit la même chose, qu'il s'étonne de l'absence du M5-RFP, alors que dans le communiqué qui vient d'être lu par le CNSP, on annonçait la présence du M5-RFP, des délégués. C'est donc pas vrai.
Beaucoup d'observateurs estiment que les militaires veulent garder le pouvoir.
Le pouvoir reste indirectement entre les mains de l'armée, parce que Bandao étant un tampon entre l'armée et il n'a que des sous-officiers, des officiers qui ne peuvent gérer que par lui. Il a été ministre de la Défense. Il a délégué beaucoup de responsabilités dans l'armée. Il a toujours des entrées dans l'armée. Donc, c'est toujours l'armée qui est au pouvoir.
Dans la ville de Bamako, la nomination de Bandao est bien appréciée.
La nomination du nouveau président, Bandao, vraiment, c'est un bon président pour moi. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au Mali. Donc, il faut un militaire qui peut diriger ces pays-là.
On entend de lui, on veut que le Mali soit un bon pays. Là, un pays où les Maliens vont dire Alhamdoulilah.
Les Maliens attendent de lui la bonne transition. Il a la qualité.
J'ai entendu qu'il est bien, vraiment. Je suis content que ça soit un militaire. Avec la crise, on va se débrouiller avec ça.
L'investiture du président de la transition est prévue ce vendredi à Bamako avec la présence de la communauté internationale sous la houlette de la CDAO. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, depuis le mois de juin, les coupures d'électricité ont repris de plus belle et fréquemment dans plusieurs zones. Les autorités parlent de légers dysfonctionnements au grand mécontentement des populations qui subissent l'étendue des dégâts découlant d'une telle situation. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Après plusieurs mois d'accalmie, c'est reparti pour des heures de coupure chaque jour. La question de l'énergie électrique est un facteur clé du mandat de Patrick Patrice Talon. Il avait promis lors des campagnes électorales de 2016 que lui, président de la République, viendrait à bout de ce problème que traîne le Bénin depuis les années 90. Septima Aïnan est patron d'une imprimerie.
Ça nous crée énormément de problèmes et ça nous crée des manques à gagner d'ailleurs, et parce que nous, depuis le matin, on attend le courant et on n'a pas le courant pour fonctionner, donc les clients nous attendent aussi. Vous voyez, il y a des marchés qui sont là, mais on n'a pas le courant pour pouvoir travailler. Alors quand on met le groupe, ça n'arrive pas à subvenir à tous nos besoins, donc on attend tout le courant. Donc on a vraiment des difficultés pour fonctionner.
Le Bénin, pour se mettre à l'abri des coupures intempestives du délestage sauvage, a besoin de 240 mégawatts. Selon les autorités, les efforts sont en train d'être fournis pour que cet objectif soit atteint. Dans un récent point fait par le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, il a dit que le Bénin se rapproche de cette capacité. Ousmane Seydou est un coiffeur. Il y a longtemps qu'il a laissé la bonne vieille méthode du peigne et de la lame de rasoir pour la tondeuse électrique. Aujourd'hui, avec les coupures, il se pose 1000 questions.
Ça, c'est un véritable enfer. On n'a pas l'énergie, on ne travaille pas, mais voilà, les factures de la SBE, chaque fois, là, sont gonflées. Hein, les factures sont gonflées. Et c'est ce que nous vivons. Sérieusement, on est cassé. Sérieusement, on est cassé. Nous coiffons des DG, hein, des personnalités politiques. Quand on échange avec eux, le seul mot, c'est que ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais jusqu'à quand?
À en croire le ministre de l'Énergie, le Bénin dispose aujourd'hui d'une capacité de 120 mégawatts sur les 240 attendus. On est encore loin de l'autonomie énergétique, mais pour les 4 ans de sa venue à la tête du pays, diverses communications ont été menées sur les efforts que fournit Patrice Talon pour l'extension du réseau électrique. Le citoyen lambda entend vaquer à ses occupations sans crainte d'être privé de courant. Assis au portail en attendant le retour de l'énergie, ses deux parents laissent parler leur colère.
Le soir, on a besoin du vent et puis on a besoin aussi de regarder la télé. Les enfants aussi ont besoin d'étudier avec l'électricité. Voilà, donc c'est amer, vraiment.
Vraiment, ça n'encourage pas. Après ce délestage, maintenant, c'est des factures et avec des sommes exorbitantes qui vont commencer par apporter dans nos maisons.
Le Bénin a souvent connu des errements en matière d'énergie électrique et malgré les difficultés actuelles, le gouvernement est convaincu que ce problème sera complètement réglé en 2021. Pour le moment, les vendeurs de panneaux solaires photovoltaïques se font de bonnes affaires auprès de ceux qui préfèrent recourir à d'autres moyens en attendant 2021. De Cotonou, Ginette Leadondé pour VOA Afrique.
Après une introduction d'Antonio Guterres, le président américain Donald Trump a livré le premier discours de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans un message enregistré, il a critiqué la Chine et demandé aux Nations unies de tenir Pékin responsable de la pandémie de Covid-19. Monsieur Trump a par ailleurs promis que des vaccins seront bientôt disponibles. Sur un autre registre, il a salué les récents accords de normalisation entre Israël et deux pays du Golfe. Abdourahman Dia a joint à Johannesburg Marissa Scott Torres, porte-parole francophone du département d'État américain.
C'est exceptionnel. Quel rêve d'annoncer quelque chose sur le 75e anniversaire du lac Nou. Mais principalement, et le président américain Donald Trump a ajouté plus de l'argent, augmenter l'assistance que le gouvernement américain et aussi les contribuables américains ont donné. Et c'est pour augmenter la capacité des partenaires internationaux et aussi de fournir l'eau, services d'assainissement, d'hygiène, et aussi augmenter le soutien aux services de protection, de santé des réfugiés. Table mondiale que les États-Unis ont donné au nom de la COVID-19, c'est plus de 350 millions de dollars de lutte contre la COVID-19.
Il a promis des vaccins pour bientôt. La lutte contre la pandémie suppose aussi une coopération internationale. Comment est-ce que les États-Unis comptent s'y prendre sans l'OMS, puisque les États-Unis ont quitté l'OMS?
Le gouvernement américain a quitté l'OMS, mais ça n'a rien à voir avec le commitment, l'engagement que les États-Unis ont avec la communauté de la santé, la communauté internationale. Le gouvernement américain a travaillé dur pour trouver un vaccin. Je sais qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la même chose. Mais nous sommes dans le dernier stage de 3 vaccins qui pourront changer tout au nom de la COVID-19. Donc, c'est dans le période d'examination, le stage final, donc dans quelques mois, peut-être nous allons avoir autre annoncement.
Pour terminer, c'est vrai que le président n'a pas abordé l'Afrique dans son discours, mais est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui sur les priorités de l'administration américaine concernant la coopération avec l'Afrique, notamment sur les questions militaires et économiques?
Oui, les questions militaires et les questions économiques sont importantes pour les États-Unis, partie de notre politique sous l'Afrique et un croisement de économique et aussi de favoriser un fardeau d'aide humanitaire. Donc, au nom de promotion de croissance économique, on a établi l'initiative qui s'appelle Prosper Africa, qui est un engagement qui est déjà commencé ici en Afrique. Le base va être ici à Johannesburg et dans quelques mois, je pense en novembre, on va avoir l'ouverture de cette base de Prosper Africa, qui est composée de plus de 17 agences américaines, y compris USAID, aussi le DFC et des autres agences qui, ensemble, qui peuvent vraiment aider la croissance économique en Afrique, dans chaque pays.
Marissa Scott-Torres, porte-parole francophone du département d'État américain, était jointe à Johannesburg.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la 75e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à partir du 22 septembre. Cette année, les réunions se tiennent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et seront essentiellement virtuelles. Même si d'autres thèmes liés à la sécurité et au maintien de la paix seront abordés, cette urgence médicale mondiale occupera une bonne place dans les discussions. Comment mobiliser plus de moyens pour combattre la pandémie en Afrique? Comment s'assurer que l'Afrique ne sera pas lésée dans la distribution de futurs vaccins et traitements? Nous discuterons tout cela avec nos invités ce jeudi 24 septembre à 19h universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La mort de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, a placé la bataille pour son remplacement au centre de la présidentielle américaine du 3 novembre. Le président Donald Trump se dit déterminé à pourvoir rapidement le poste vacant, alors que son rival démocrate Joe Biden estime que c'est au vainqueur de l'élection de proposer un candidat à la haute cour. Un reportage de Brian Padden, le récit est de Lionel Gaïma.
Dimanche en Pennsylvanie, le candidat démocrate Joe Biden a exhorté le Sénat à laisser le vainqueur de la présidentielle du 3 novembre proposer un candidat pour remplacer l'icône libérale de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier.
Les électeurs devraient répondre clairement à cette question et à tant d'autres. Ce sont eux, les électeurs, qui ont le pouvoir dans cette nation, le peuple américain.
De son côté, le président Donald Trump a réitéré lundi qu'il va nommer cette semaine une femme à la Cour suprême. Une décision qui pourrait plaire à la fois aux électrices de banlieue et à sa base conservatrice opposée à l'avortement.
Je remplis juste mes obligations constitutionnelles. J'ai l'obligation de le faire.
Si Trump réussit, la majorité conservatrice de 6-3 à la Cour suprême survivra longtemps après son administration, qu'il soit réélu ou non, puisque les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Barbara Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l'Université de Virginie.
Ils peuvent avoir un impact sur la haute cour, la politique et le gouvernement américain pendant des décennies, bien après que le président qui les a nommés aura quitté la scène ou a peut-être même été enterré.
Les démocrates craignent qu'une haute cour conservatrice va annuler les protections de soins de santé imposées par le gouvernement fédéral pour les patients souffrant des maladies préexistantes, de même qu'elle pourrait compromettre le droit à l'avortement, le droit au mariage homosexuel et les protections des travailleurs et de l'environnement. Le président Donald Trump a appelé le Sénat, dominé par les Républicains, à confirmer son choix à la Cour suprême avant les élections du 3 novembre. Mais il pourrait aussi le faire lors de la période d'après l'élection, même si Biden l'emporte. On ignore ce que les démocrates peuvent faire pour retarder le processus. Jusqu'à présent, seuls deux sénateurs républicains, Lisa Murkowski de l'Alaska et Susan Collins du Maine, qui est elle-même dans une rude bataille pour la réélection, se sont publiquement opposés à combler le poste vacant avant l'élection. Il faudrait que 4 républicains au total rejoignent les démocrates pour bloquer l'approbation par le Sénat du candidat ou de la candidate proposée par Trump. Avec Biden légèrement en tête dans la plupart des sondages, on ne sait pas non plus comment cette focalisation soudaine sur la Cour suprême affectera la course à la Maison-Blanche et les élections au Sénat.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.